Robert Blondin, ici. Bienvenue à l'aventure. Aujourd'hui, à l'aventure, quelqu'un de très, très particulier. C'est presque un mystère en soi. Si je vous dis que c'est quelqu'un qui, effectivement, dans le grand public, n'est pas connu, comme les invités de cette série d'émissions. Il est connu dans ses milieux de travail. Il est connu par toutes sortes de monde, mais pas nécessairement par le grand public. Essayez de comprendre un gars qui est à la fois, ou a été à la fois, débardeur, directeur général du Bloc québécois, directeur général du Parti québécois, chef de cabinet de Gilles Duceppe et directeur du laboratoire des sciences judiciaires. Hein?
Judiciaires ouais. Et de médecine légale.
Et de médecine légale. Et à la retraite maintenant.
À la retraite maintenant.
Écrivain qui s'en vient.
Et qui est en devenir.
Il s'appelle Yves, connu sous le nom de Bob Dufour. C'est un plaisir de jaser avec toi, c'est pas la première fois qu'on le fait. Hey, comment ça se fait qu'un gars peut faire tout ça dans la vie, puis être à l'aise dans tout ça, et avec tout le monde?
C'est une très bonne question. Je dirais que c'est peut-être une question d'ouverture. Je dirais que c'est peut-être une question de choix, pas de choix de carrière, puis de choix de carrière, là, parce que ça n'a pas à voir. Moi, c'est à la fin de ma vie de travail, j'ai réalisé que j'avais fait une carrière, parce que, bon, notre laboratoire, ça méritait des prix, puis tout ça. Mais il n'y a rien qui me prédestinait, moi, à aller faire ça. En premier, ben j'avais commencé à travailler comme débardeur parce que mon père était débardeur, ma famille, mes oncles, mes cousins.
D'ailleurs, on ira en détail là-dedans. Parle-moi d'abord du laboratoire. Parce que tu viens de prendre ta retraite, mais tu as eu une présence extrêmement importante dans le développement de ce laboratoire-là.
Oui.
Ça, c'est un laboratoire, là. Entendons-nous. Pour ceux qui regardent la télévision, là, quand il y a un crime puis que c'est des policiers scientifiques qui découvrent qui a fait quoi avec l'acide des oxybourines, l'hybridinique, puis la balistique, tu dirigeais ça.
Oui, exactement. Mais moi, il n'y a rien qui me prédestinait à aller là.
Rien?
Pas en tout. Zéro comme dans Wallet, là, pas du tout. Moi, j'avais été nommé par M. Bouchard, sous ministre adjoint aux régions en Montérégie. Puis, trois ans après qu'on a été nommé, il y a eu des élections en 2003. Puis, le gouvernement du PQ s'est fait battre, les libéraux sont rentrés, ils ont aboli le ministère des régions. Et ils l'ont intégré au ministère des Affaires municipales. Alors, on s'est ramassé 15-16 sous ministres adjoints. Un peu sur le carreau, mais comme on avait notre permanence, il fallait qu'ils nous trouvent un poste dans la fonction publique ou de niveau, là, ce qu'on appelle là, techniquement, de cadre 2. Alors, le ministre de la Sécurité publique, que moi je connaissais parce que j'avais déjà travaillé avec lui, même si on faisait de la politique, qu'on n'était pas dans le même parti, on se connaissait, puis il dit, moi, là, j'ai besoin de Bob. Fait que ils ont l'air d'avoir fait une espèce de liste, là, puis un peu comme ils font au hockey, là, ils ont drafté du monde. Fait que là, tout le monde est parti dans toutes sortes de ministères. Il y en a qui ont été d'emploi, il y en a qui ont été des relations internationales. Moi, je me suis ramassé dans la sécurité publique, sans savoir que je m'en allais au laboratoire. Fait que quand j'ai su qu'on m'avait comme catapulté dans le ministère de la Sécurité publique, j'ai demandé à ma secrétaire, Mme Gagné, tu pourrais-tu sortir l'organigramme du ministère, là, je regarde de ça, le service correctionnel. Là, elle dit, Chris, m'enverront pas pour la prison, prison certain. Sûreté du Québec, moi, je suis pas une police, puis ça fait pas partie de mes ambitions, je veux pas ce qu'il faut pour faire ça, puis c'est pas là. Fait que là, moi, je voyais sécurité civile. Fait que là, sécurité civile, l'organisation, des fois, des catastrophes, je suis capable d'organiser des affaires. Peut-être qu'ils vont m'envoyer là. Je reçois un appel le vendredi qui précède ma rencontre avec mon sous-ministre, là, Luc Crépeau. Lui, je le rencontre, je pense que c'est lundi, le 2 ou le 3 juillet. Mais le vendredi qui précède, Chagnon me téléphone ici à la maison pour me dire, écoute... Lundi, tu rencontres mon sous-ministre. J'ai dit, c'est-tu drôle que tu m'appelles? Je commence dans ton ministère lundi prochain. Il dit oui, puis c'est pour ça que je t'appelle. Fait qu'il dit, tu vas rencontrer mon sous-ministre, puis il va t'offrir un poste, là, puis je veux pas que tu dises non. Mais il dit, pourquoi tu me dis ça, que tu veux pas que je dise non? Moi, je te connais, toi, ça fait pas dans l'affaire, là, tu vas l'envoyer promener, puis tu vas lui dire que tu veux rien savoir de ça, tu sais. Moi, j'ai dit, écoute, je sais même pas, c'est quoi la job? Et je te le dis pas. Moi, regarde tes fins, là. Tu me dis que je m'en vais travailler dans le ministère de la Sécurité publique, tu me dis même pas que je vais faire. Non, puis je veux pas que tu dises non. Il me dit, où tu demeures? Je lui dis, où je demeure? Près du stade olympique. Il dit, tu vas pas y aller en vélo. Alors, moi, je pensais que c'était la Sécurité publique, RECOM, là, au coin de JO puis Sherbrooke, là, il y a des bureaux du ministère. Probablement que c'est là. Il dit, non, c'est pas là. En tout cas, je me casse la tête. Je dis, regarde, moi, y aller lundi, là, puis je vais parler avec Crépeau, avec M. Crépeau, puis je vais voir qu'est-ce qu'il va m'offrir. Alors, moi, quand je suis arrivé là, il y avait l'organigramme du ministère, là, c'était grand, là, c'était tout sur la table. Puis il avait encerclé le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Moi, ma première réaction, ça a été comme les enfants à l'école, il a fait un barbeau sur sa feuille. Tu sais, là, Fait que là, moi, je regarde l'organigramme. Fait que là, il dit, on te verrait là. Je verrais là où? Ben, il dit là. Mais là. Il dit, le laboratoire des sciences judiciaires de médecine. Il dit, oh, tu parles pas trop vite, là. Ça fait, comment t'appeler ça? Il dit, laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale. Ah, j'ai dit, regarde, votre problème est réglé. C'est pas moi qui va aller là. Moi, je connais rien là-dedans. Mais là, il dit, parce que t'as pas compris. Ben non, mais écoutez, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, ça, c'est un laboratoire scientifique. Puis un laboratoire scientifique qui fait des expertises judiciaires. Mais j'ai dit, c'est qui travaille là-dedans? Bien, des biologistes, des chimistes, c'est parfait, parfait. Oublie-moi, mais moi pas là. Dit, écoute-moi, moi, vous nuez, puis j'ai pas d'affaires là, pas en tout. Moi, il y a deux places dans la vie, je veux pas travailler. À l'INRS, l'Institut de recherche scientifique, puis là, parce que je suis pas un scientifique. Mais il dit, c'est justement, on a besoin d'un scientifique. On a besoin de quelqu'un qui n'est pas un scientifique, plutôt. On a besoin de quelqu'un qui n'est pas un scientifique, mais qui connaît les organisations. Ah, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, moi, j'ai vérifié avec deux anciens sous-ministres avec qui tu as travaillé. Fait que là, j'ai dit, c'est un bluff, là, tu sais, il m'a demandé, c'est qui tes sous-ministres? Il me nomme Robert Sauvé, puis Gilbert Charland. Puis il dit, les deux, ils m'ont dit, pour le job qu'il y a à faire là, Bob, là, c'est votre gars. Il ne connaît pas ça, mais c'est un gars d'organisation, c'est un gars qui connaît les organisations. Et cette organisation-là, elle a besoin d'être un peu rafistolée. Là. Aujourd'hui, on dirait
on va raccourcir un peu. C'est ce que tu as fait. Tu as fait une sacrée bonne job. Rappelle-nous, qu'est-ce que ça fait, un laboratoire comme ça?
Un laboratoire comme ça, là, c'est ce qu'on appelle, tantôt, vous parliez de la télévision, là, mais c'est un peu ce qu'on voit à CSI, sauf que nous autres, pour le vrai. Eux autres, là, dans 43 minutes, ils ont trouvé le gars, il y a 17 minutes d'annonce, puis l'affaire est catch-up. Nous autres, c'est pas tout à fait dans le même temps. On prend un petit peu plus de temps. J'ai regardé l'autre fois, là, avant la première annonce, là, il avait trouvé un os de 400 ans, puis là, il avait pris du carbone 14, puis il savait quasiment le numéro de série du gars. Là. Écoute, tu sais, ça va pas d'allure. Ah, mais nous autres, c'est pas ça qu'on fait. Nous autres, ce qu'on fait, c'est que quand il y a un crime, notamment pour ceux qui vont faire les scènes de crime, les tâches et projections de sang, ils sont appelés par les enquêteurs de police quand il y a des homicides, quand il y a des crimes, tentatives de meurtre avec des armes tranchantes, piquantes, des pistolets, armes à feu, etc., pour aller, ce qu'on appelle, faire parler la scène, aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur la scène pour aider les corps de police. Donc, c'est pas nous autres qui décidons d'aller sur une scène de crime, c'est les corps de police qui sont nos clients, parce que le laboratoire est indépendant. Le laboratoire, il relève du ministère de la Sécurité publique, puis des policiers, des coronaires, les tribunaux, les procureurs de la couronne, eux autres, c'est nos clients. Alors, ils vont demander à notre monde, à nous autres, de trouver la cause probable du décès. On travaille beaucoup avec le bureau du coroner qui, lui, gère une loi qui s'appelle la loi 62, la loi sur les causes et circonstances de décès. Quand il y a un crime, les enquêteurs ils vont demander un avis au coroner pour être capable de faire une enquête. Et le corps ou le corps de la personne qui est décédée va venir au laboratoire. Et nous autres, il faut qu'on fournisse au coroner la cause probable du décès, pas la cause certaine, la cause probable du décès pour permettre au coroner de lui faire son enquête après. Alors, il y a notre rapport, celui des pathos, il y a celui de la toxicologie, S'il y a de la balistique, il y a celui de la balistique, puis après ça, il y a l'enquête de la police. Donc, lui, après, là, le coroner, il peut dire, bon, maintenant, tel cas, voici, là, qu'est-ce qui s'est passé.
J'ai eu l'occasion, grâce à toi, de visiter ces laboratoires. C'est extraordinairement spectaculaire à voir tout ce que ces gens-là peuvent voir avec une acuité scientifique absolument incroyable. Mais j'aimerais que tu nous parles d'un haut fait de ce laboratoire, c'est l'identification des victimes du lac Mégantic. Vous avez fait un travail incroyable.
Mais d'abord, on est parti là, sans, et on n'avait pas de pression, parce qu'il n'y a personne qui a pensé qu'on était capable de le faire. Pas parce qu'on n'était pas fin, pas parce qu'on n'était pas bon, parce que ça n'avait pas d'allure. C'était d'abord une explosion extraordinaire, on ne veut pas revenir sur les détails. Je pense par exemple au Musique Café, là, où il y avait une vingtaine de personnes, tout le monde était entrelacé, tout le monde se tenait à brasse-corps et tout ça. Bien, il y avait 27 personnes, ou 25 ou 27 personnes là, dans le Musique Café. Bien, on a trouvé des ossements, là. Mais c'était à qui, les ossements? Alors ça, il a fallu tout démêler, les ossements. Ça a pris quasiment 2 mois pour être capable d'identifier vraiment tel ossement et à telle personne ou à telle autre personne, les êtres chers des familles là, qui ont été touchés par ça. Puis même, ma sous-ministre, à un moment donné, m'avait appelé et elle m'avait dit, tu sais, Bob, là, c'est pas la sous-ministre qui parle, là, c'est une citoyenne. Moi, je pensais jamais que vous seriez capable de faire ça. Mais nous autres, on avait travaillé avec les corps de police, avec surtout la Sûreté du Québec, avec le bureau du coroner, pour mettre sur pied un programme qui s'appelle un filet 4. Donc, des enquêtes dans des causes où il y a des décès de plus que 5 personnes, puis que c'est une scène de crime, bien, nous autres, on participe à ça. Mais chez nous, là, on a des gens qui font de la toxicologie, des gens qui sont de la médecine légale, des pathologistes. On a des odontologistes qui sont capables d'identifier les personnes avec des fiches dentaires. On a aussi des anthropologues judiciaires, René Kozalka, là, qui est à Toronto, qui est venu nous aider. Donc, on avait des outils qui étaient capables de nous aider à faire l'identification. Maintenant, on ne les a pas toutes faites. On les a faites rapidement, mais nous autres, le lundi matin, c'est arrivé le samedi, dans la nuit vendredi à samedi. C'est sûr que dimanche, on ne pouvait pas aller sur la scène parce qu'il y a les braises et tout ça. Puis là, le lundi, nous autres, on a commencé à travailler à 8 heures. On est arrivé avec, on a fait une réunion avec les pathos, avec les odontologistes, avec la Sûreté du Québec, le bureau du coroner. Puis on a commencé à aligner nos affaires et à se dire, bien voici, là, c'est quoi qu'il y a à faire. Chacun a fait sa job, mais c'est surtout beaucoup un travail d'équipe avec les policiers qui, eux autres, allaient chercher au lac Mégantic les échantillons de comparaison pour être capables de faire l'identification, par exemple, pour l'ADN, par exemple, pour les fiches dentaires. Heureusement, sur les 3 dentistes qu'il y avait à Mégantic, il y en a 2 qui n'ont pas été brûlés. Donc, eux autres, il y avait des fiches dentaires antémortem de, je pense, c'est 35 ou 36 personnes portées disparues sur les 47. Alors, c'est sûr que ça, là, en partant, ça nous donne un coup de main, mais les gens, ils ne connaissent pas ça. Avant, on avait un odontologue judiciaire, le docteur Dorion, puis là, à un moment donné, je disais à Robert, il faudrait que tu formes du monde, on ne sait jamais, peut-être tu peux décéder. Enfin, à lui, il en avait formé 4-5. Alors, on avait 5 odontologistes, plus avec le docteur Dorion, qui était sa job toute la semaine là, pour faire cette identification-là. Mais pour être capable d'identifier formellement les personnes, nous autres, on fonctionne avec un logiciel là, qui s'appelle DVI, qui est un logiciel qui est utilisé par Interpol. Donc, ça prenait 2 preuves pour être capable d'identifier formellement une personne. Aujourd'hui, tu sais, si une personne a une balle entre les 2 yeux et elle décède, tu n'es pas obligé de savoir si elle a fait une crise cardiaque il y a 4 ans, tu sais que c'est ça qui est arrivé. Mais nous autres, là, selon le logiciel qu'on avait, il fallait qu'on aille 2 preuves. Alors, on avait, en partant, des fiches dentaires. Ça nous a donné un coup de main. Il pouvait y avoir des tatouages, il pouvait y avoir des bijoux, il pouvait y avoir des fiches dentaires, il pouvait y avoir de l'ADN. Mais l'ADN, ça a ses limites. Comme, par exemple, si dans l'os, on peut faire... on peut aller chercher la moelle qui est dans l'os, puis qui est encore bonne, on peut faire par une technique qui s'appelle le mitochondrial. On est capable d'identifier la personne. Mais s'il est trop calciné, puis que la moelle qui est dans l'os là, est blanchâtre, puis qu'elle est toute en poudre, bien là, il n'y a rien à faire. Mais on a contacté une organisation qui s'appelle International Missing Person Commission. Ça, c'est en Bosnie. Eux autres, ils font des charniers. Alors, on s'est dit, peut-être, eux autres, ils font du mitochondrial, puis ils pourraient peut-être nous aider. Eux, ils n'ont pas été capables de faire comme, pas plus que nous autres. On a essayé avec un laboratoire à Thunder Bay, ils n'ont pas été capables. Puis, on est allé aussi à New York, ceux qui ont fait le World Trade Center. Puis, eux autres aussi, là, ils étaient limités, là, comme nous autres, on l'a fait. Alors, on a réussi quand même à identifier rapidement 38 personnes, je pense, dans l'espace d'une vingtaine de jours. Après ça, on a fait 39, 40, 41, mais les autres jusqu'à 47, ça, on n'a pas pu les faire. Mais les familles, eux autres, ils voulaient avoir des corps. Puis ils disaient, vous les avez identifiés, vous le savez, c'est qui? Puis là, le coroner commençait à avoir pas mal de pression là, de la population de Mégantic. Puis là, j'ai dit, c'est quoi que vous voulez? Voulez-vous que j'y aille? Je voulais qu'on y aille là, avec un bateau, avec l'ADN, puis tout ça. Qu'on a. Oui, bien, c'est ça, si vous venez lui parler, eux autres, ils ne connaissent pas là, ce qu'on fait. Je suis parti avec le Dr Bourgault, puis avec Diane Séguin, qui était la directrice de la biologie. Puis on est allé rencontrer les familles. Il m'a dit, là, c'était pas un party de Noël, là. C'était vraiment triste, là. T'sais, c'était vraiment... Puis on regardait les familles, là, c'était malheureux, là. Il y en a à qui on a dit... On a fait deux réunions. Il y en a une à qui... Une réunion dans laquelle on a dit aux gens, vous autres, là, bien, peut-être qu'on retrouvera pas les corps de vos êtres chers. Les autres, on leur a dit... On essaye de démêler les ossements, je parlais tantôt là, du Musicafé, pour être capable de donner les bons ossements, les bons restants aux bonnes familles. Puis là, ils ont compris, puis ils ont dit, ah ben on savait pas, parce qu'eux autres, là, ils faisaient venir les familles de la Gaspésie, la Côte-Nord, puis les funérailles, puis il y avait trois résidences funéraires là-bas, tu sais, puis le curé, en tout cas, tout le monde se mêlait de ça. Mais là, j'ai dit, nous autres, on peut pas vous les donner, on était comme à peu près fin août. Mais on dit combien ça va prendre de temps pour faire ça? Aucune idée. J'ai dit, ouais, mais à l'action de grâce, ça va être fait. Peut-être. Parce que là, il faut prendre ces ossements-là. Alors, le docteur, René Kozalka, est venu faire ces dossiers-là chez nous avec son professeur qui lui enseigne au doctorat à l'Université de Toronto. Puis on a mis des tables là, qu'on prend habituellement là, pour mettre les corps, là, les dalles, ce qu'on appelle les dalles de la mort. On en a mis 8. Un à côté de l'autre, puis on a mis un espèce de schéma de corps humain, puis elle apprenait les ossements, puis elle disait, lui, il va là, puis lui, il va là. C'est comme un...
Un puzzle.
Comme un puzzle, mais elle, il ne faut pas qu'elle se trompe. Fait que j'ai dit, nous autres, on pourrait vous dire n'importe quoi, vous donner n'importe quoi, mais on n'est pas parti de Montréal, on n'a pas fait 2h30 de voiture pour venir vous bullshitter, puis vous faire accroître des affaires, vous êtes assez dans le trouble comme c'est là. Mais ce qu'on veut faire, là, c'est vous donner vraiment... Écoute, le monde nous applaudit. Mais il y en a qui ont sorti en pleurant. Alors, tu vois, là, comment... Là,
les gens, faut donner leur juste.
Il faut donner leur juste. Et ça, là, celui qui avait géré le World Trade Center, il était venu rencontrer les gens du coroner puis du monde de chez nous, puis il avait dit l'affaire principale là-dedans, là, c'est la clarté. Donner leur juste au monde, là, puis pas enrober ça là, avec des affaires qui n'ont pas d'allure.
Yves, mieux connu sous le nom de Bob Dufour. Alors, on voit à quel point cet homme est l'artisan de travail important. Il l'a été, il était maintenant récemment à la retraite. Mais Bob, t'es pas venu au monde en disant, moi, un jour, je vais récolter des ours, puis je vais faire des puzzles avec des cadavres pour ne pas les identifier. Tu viens d'un milieu complètement différent. Alors, on remonte à l'origine, l'enfance. Parle-moi de ta famille, alors, quand tu étais jeune enfant.
Bien, ma famille, c'est des gens qui viennent de l'île aux Coudes, alors, qui ont émigré, une espèce d'émigration interne, à Montréal en 45-46. Tu vois, ma soeur Dorothée, elle a un an de plus que moi, est née à l'île aux Coudes. Puis moi, je suis né un an après, puis je suis né dans le Vieux-Montréal, là, c'est la rue Saint-Louis. J'étais baptisé à l'église Notre-Dame. Alors, puis notre famille, elle restait là. Puis il y avait beaucoup de monde là, qui venait des Locoudes qui restait dans ce coin-là. Je sais pas si c'était à cause de la gare Vigée qui arrêtait là. Les trains arrêtaient là, je suppose. Puis là, le monde, il se trouvait des appartements, des logements. Il y avait une crise du logement à l'époque. Les gens, ils prenaient des chambreurs, alors... Entre la rue, je dirais, Berry, puis Saint-Laurent, puis Saint-Antoine, là, à l'époque, c'était Craig, puis le fleuve, là, ça, c'était des gens qui venaient des Locoudes qui restaient là. Puis il y en avait beaucoup de familles qui restaient dans ce coin-là. Puis là, où est Radio-Canada, là, entre Amherst, Papineau, je dirais Ontario, puis le fleuve, ça, c'est du monde qui venait de la Gaspésie. Alors, quand ils arrivaient, c'est sûr qu'ils allaient voir la famille, puis ils s'en approchent. Puis après, bien, ils ont SME, si vous voulez. Puis il y en a beaucoup qui se sont retrouvés à Pointe-aux-Trembles. Il y en a beaucoup qui sont retrouvés à Pointe-aux-Trembles. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que les terrains n'étaient pas chers. Il y avait le fleuve. Ils pouvaient aller à la chasse. Ils pouvaient aller à la pêche. Je sais pas. Enfin, ils pouvaient reproduire ce qu'ils faisaient. Alors, mon père était débardeur. Mes oncles étaient débardeurs. Des cousins aussi. Mais débardeurs, c'est bateaux, oui. Mais il y en a aussi qui travaillaient ce qu'on appelle travailler au char. Alors, travailler au char, là, c'est... Ils travaillaient...
On va défermer la fenêtre parce que ça fait du vent dans le micro. Okay.
Travailler au char, là, c'est ce qu'on appelle charger puis décharger des trains. Alors, il y avait le Canadien National, le CNR, puis il y avait le Canadien Pacifique, le CPR. Fait que du côté de ma mère, mes oncles, du côté de ma mère, eux autres, ils travaillaient soit au CN, soit au CP. Puis là, ma mère, elle m'avait dit, bien, tu sais, à grandeur et à grosseur que tu as, 16 ans, 17 ans, tu serais capable de faire ça, tu pourrais aller travailler là. Puis ma mère, elle nous poussait à elle, travailler. Puis ma mère a pas vécu. Moi, ma mère a travaillé. Fait que si elle a travaillé, nous autres, on travaille. Fait que fallait qu'on travaille, fallait qu'on paye une pension, la vie d'adulte et tout ça. Là. Hein, c'était des familles de la classe moyenne, mais pas upper middle, là, tu sais, là, vraiment une vraie classe moyenne. Alors, on a resté là dans le Vieux-Montréal, là, sur la rue Saint-Louis, de 0 jusqu'à 4 ans. 4 ans, c'est ça, 5, jusqu'à 5 ans. Après ça, 5 ans, je déménageais à Rosemont, au coin de la 26e puis Saint-Zatique. Puis là, j'étais allé à l'école, fait ma première année là, puis ma première communion, ces affaires-là. Puis après, on a déménagé sur Boyer puis Bélanger. Puis là, j'allais à l'école Christophe Colomb. Puis... Après, on est parti de ce coin-là, puis on allait à Pointe-aux-Trembles. On est en 56-57 à peu près.
Mais c'est pas une famille banale, parce que oui, ça travaille fort, mais parle-moi du restaurant.
Bien, ma tante, ma mère, quand on restait sur la rue Saint-Louis, là, tu sais, des restaurants, il n'y en avait pas. Alors, ma mère, elle faisait des repas pour les débardeurs. Fait qu'elle emmenait tôt 4-5 le midi, mais c'était du monde qu'on connaissait, là, que ma mère ou mon père connaissait. Puis elle les chargeait 25 cents, puis elle faisait des repas, les mêmes repas que nous autres on mangeait. Puis il y avait juste une heure pour dîner, il arrivait à midi, midi et 10, puis il partait vers 1h moins quart parce qu'il commençait à 1h. Puis là, ma tante Diane, la sœur de ma mère qui est la plus vieille, elle était rendue à Pointe-aux-Trembles, puis il y avait un restaurant à vendre. Puis là, elle parlait de ça à ma mère, puis ils ont décidé, tous les deux, d'acheter le restaurant. Mais écoute, le restaurant, ça s'appelait le restaurant du coin, c'était pas compliqué, puis ça faisait le coin de la Roussalière et Notre-Dame. Ils n'ont pas cherché bien, bien longtemps pour trouver le nom du restaurant. Puis là-dedans, ils faisaient là, de la bouffe, là, les repas une pièce et 24, des repas complets. Fait qu'il y avait toutes sortes de monde qui travaillait dans le coin, qui venait là. Le soir, bien, c'était les jeunes qui se tenaient là parce qu'il y avait un jukebox puis une machine à boules. Puis, ils en vendaient aussi un petit peu d'épicerie, mais pas beaucoup. Puis on vendait des bonbons à la Seine parce qu'il y avait des enfants qui voulaient avoir de la gomme, puis tout ça. Puis nous autres, on restait en arrière. Il y avait un logement en arrière, là, on restait, là, on était 5 enfants là-dedans, avec mon père et ma mère. Puis des fois, il y a une maison qui était camionneur, puis il passait par Montréal, il arrêtait à coucher. Faut une mousse qui couchait, je ne sais pas, là, mais en tout cas, ça a fait 4-5 ans.
C'est un milieu qui était rough, hein, un peu, c'est pas, c'était dur un peu.
Non, moi, je dirais pas.
Tu le dirais pas ça?
Non, moi, je dirais pas ça. Animé et de l'action, beaucoup d'action, puis tout ça. Puis il faut savoir aussi qu'à l'époque, là, au bout de l'île, là, il y avait le parc Richelieu. Puis là, ça, c'est un parc un peu comme Blue Bonnet, là, mais c'est un parc où il y avait des courses de chevaux. Alors, c'est sûr que le matin, là, il se ramassait du monde pour parler des chevaux, puis des courses, puis tout ça. Mais de dire que c'était un monde qui était dur, non. Moi, je dirais pas ça. Mais c'était animé, puis il y avait beaucoup d'action, puis ça touchait beaucoup de milieux, là.
OK. Amène-nous chez les débardeurs, ça a été ton premier métier?
Oui. Ben, j'avais commencé peut-être l'été, là, assistant moniteur pour les enfants d'un parc, là, mais quand ma mère, elle m'a dit, écoute, t'es capable de faire ça, puis là, tu vas aller voir ton oncle un tel, puis, tu sais, il va essayer de te faire rentrer, pas comme débardeur, mais comme pour travailler au char. Je suis arrivé là, m'a pas plus aidé, là, que je me suis arrangé tout seul, tu sais, là, fait que je me suis inscrit, donné mon nom, m'a donné un numéro de badge, je pense que c'est 682 le numéro que j'avais. Là, on allait là le matin. Puis là, ben s'il y avait besoin de tant de travailleurs, ben là, il allait par ordre d'ancienneté, numéro 1, 2. Puis là, ben s'il y en a qui venaient pas, ça compte pas. Fait que, puis là, ben des fois, il restait de la place. Fait que là, moi, j'embarquais. Fait que là, ben je commençais à travailler, à décharger des poches d'amiante, là, ces trains. La première poche que j'ai pris était assez haute, tu sais, puis ça pesait quand même 100 livres. Puis je l'ai mal pris, puis au lieu de la mettre sur mes genoux, je l'ai mis sur mon estomac, je suis parti, je suis tombé sur le cul, évidemment. Eux autres, ils ont trouvé ça comique, ils ont trouvé ça drôle, tu sais. Ils ont dit, regarde, on va te le montrer comment ça marche. T'es pas pour tomber sur le cul à trois fois, c'est pas de même, on n'avancera pas. Fait que là, ils m'ont expliqué comment travailler. Là, j'ai appris comment travailler. Puis là, il faut comprendre qu'au port, à l'époque, il y avait trois affaires. Il y avait les trains, ce qu'on appelait là, le Sienneur et le Cipière. Il y avait ce qu'on appelait aussi les petites lignes. Les petites lignes, là, ça, c'était les goélettes. Les bateaux qui sont sur le fleuve, là, puis qui vont là, aux îles de Madeleine, puis à Côte-Nord, puis tout ça. Qui déchargeait à Montréal, puis qui chargeait à Montréal. Puis il y avait les grandes lignes qui étaient là, les bateaux. Là, qui,
les cargos, là.
Les cargos, les gros bateaux là, qui traversaient l'Atlantique et tout ça. Là. Alors, puis, il y avait des grosses compagnies. Là. Il y avait Montréal et Saint-John-Sévidor. Alors, eux autres, là, il y avait beaucoup de monde de l'île aux coudes qui travaillait dans les équipes, parce qu'une équipe de débardeurs, à l'époque, c'était 18 personnes. Alors, il y avait beaucoup de monde de l'île là, qui se tenait, qui travaillait, là. Il y avait peut-être 6-7 gangs qu'on appelait à l'époque, là. Puis après ça, il y avait la Eastern, après ça, il y a eu la Logitech, il y avait la Brown, la Wolf, la Fédérale, alors la Cunard. Alors, c'était toutes des compagnies de débardage qui embauchaient des débardeurs pour faire la job. Alors, moi, bien, M. Gravel, là, qui était monsieur qui restait en avant chez nous, lui, il était contremaître pour une équipe de débardeurs de Maurice Saint-Jean-Tivideau, lui, m'avait engagé. Puis, c'était oui puis non, parce que je travaillais là, mais il fallait avoir 18 ans. Puis moi, j'avais pas 18 ans. Fait que si moi, il m'était arrivé un accident, là, j'étais pas assuré, là. Tu sais, j'aurais pu me blesser, j'aurais pu me briser un membre, mais il n'aurait pas arrivé de sortir. Il y avait des accidents sur le port. Mais là, moi, j'étais dans le trouble. Tu sais, j'arrêtais dans le trouble. Mais il me gardait parce qu'il savait que j'allais à l'école, puis il connaissait mon père, puis tout ça. Fait que je commençais tranquillement avec lui. Puis après ça, ben, j'étais allé dans d'autres compagnies, la Cérès avec d'autres gangs de débardeurs, puis tout ça. Puis en même temps, je poursuivais des études, tu sais, j'allais à l'école. Puis ma mère, elle aimait pas ça que j'aille au port parce que je faisais trop d'argent. Elle disait, tu gagnes autant que ton père, puis elle me dit, j'ai peur que tu restes là, puis que tu vas faire comme eux autres avec un 10 onces à la fesse, puis tu sais, là, tu vas prendre un coup, puis tu vas faire bien de l'argent. Puis effectivement, les débardeurs, c'est quand même des métiers qui étaient assez payants à l'époque. À l'époque, là, la comparaison était policier-pompier puis débardeur. Nous autres, on suivait à peu près là, le même taux là, de salaire. On n'en est pas gros, on gagnait 2$63 de l'heure, ouais, mais ça coûtait 2-3$ mais du gaz dans ton char. Fait que, tu sais, faut comparer avec du comparable. Puis elle me poussait toujours pour que moi, je finisse mes études, puis que j'aille à l'université, puis que j'essaie de... Fait que j'ai fait les deux. Une année pour être classé là, comme débardeur, pour être vraiment reconnu, il aurait fallu faire 800 heures. Puis moi, j'en ai fait 620. Fait que là, j'ai fait un grief parce que je perdais ma job. J'avais plus ma permanence. Puis je passais devant le juge Gold, le juge Alan Gold, qui était un homme extraordinaire. Puis là, j'étais défendre mon point tout seul parce que le président du syndicat, il poussait pas trop tôt pour que moi je revienne. Puis il dit, bon, ben M. Dufour, là, il y a de quoi soumettre. Là, le juge Gold m'a demandé pourquoi j'avais pas fait mes 800 heures. Puis là, j'ai expliqué, ma mère est morte, il fallait que je m'occupe de ma famille. Moi, j'ai 21 ans, puis je vais à l'école, puis je vais faire un avocat, je vais aller en droit, etc. Ça l'a touché. En tout cas, il m'a dit, OK, ce qui arrive, puis ils m'ont passé. Mais quand j'avais commencé à travailler comme débardeur avec M. Gravel, puis tout ça, là, à un moment donné, ils ont pris des membres. Ce qu'on appelle prendre des membres, ça veut dire prendre des membres permanents. Puis on était à peu près une des dernières grosses gangs. On était 150, 160 à rentrer. Puis le président du syndicat à l'époque, il s'appelait Paul Asselin. Puis lui, Paul Asselin, me connaissait parce qu'il venait chez son beau-frère qui restait en haut de chez nous quand je demeurais sur la rue Boyer. Puis fouille-moi où j'ai pris ça, là. Moi, j'étais dans la salle avec les autres, là. Pas eux, pas plus, pas moins. J'avais juste 18 ans. J'étais correct pour l'âge. Mon père, il me baquait parce que ça prenait quelqu'un qui t'appuyait. Puis là, il dit, toi, Bobby, là, tu vas travailler avec nous autres. Tu vas aller à l'école. Tu vas finir tes études de droit, tu vas devenir un avocat, puis tu vas devenir l'avocat des débardeurs. Moi, je la regarde, c'est tabarouette, où c'est qu'il a pris ça? Puis il me dit ça, puis après ça, il continue, puis il fait son laïus. Mais sur le coup, ça m'avait vraiment frappé. Je pensais pas qu'il m'avait remarqué dans le lot, parce qu'il y a quand même 150, 160 personnes. Mais ça m'avait vraiment frappé. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai continué de faire mes études, le cégep, bon, Maisonneuve, ils m'ont mis dehors en santé neuf, ils m'ont pas mis dehors, ils m'ont proscrit. Je n'ai même pas allé sur le terrain pendant 2-3 ans. Fait que quand j'y allais, le gars de la sécurité...
Agitation politique.
Ouais, ben c'est ça, on avait brossé pas mal, là. Nous autres, Sainte-Thérèse, c'était pas mal les deux fers de lance, là. Puis après ça, j'étais allé au cégep du Vieux-Montréal. Après ça, j'ai fini mon cégep à Rosemont, en droit, puis j'ai été accepté à l'Université de Montréal en droit en 1974, puis j'ai commencé des études de droit. Alors, ce qu'il avait dit...
Les as-tu terminé, tes études de droit?
J'ai essayé. Mais écoute, là j'ai fait un an, puis là, j'ai débarqué parce que ça c'était pas mon monde. J'étais pas à l'aise avec ce monde-là. Je me suis réessayé après quand ils ont mis sur pied les sciences juridiques à l'UQAM. Fait que j'ai été accepté. Là, j'ai eu un contrat. Un contrat d'embauche, évidemment, en politique et tout ça. J'ai dit, bon, bien, on va faire mon contrat, je recommencerai l'année prochaine. Je me suis inscrit certains 3-4 fois à l'université, puis en me disant, bien, quand moi être vieux, je le ferai. Fait que là, je sais pas, peut-être dans 2 ans, 3 ans, je le ferai.
Et là, à ce moment-là, tu es très sensibilisé sur les causes politiques, sur les changements nécessaires en société.
Ah, ouais, ouais.
Tu étais impliqué et engagé, là.
Oui, oui.
D'abord comme citoyen, comme étudiant, puis rapidement, tu deviens organisateur, mais pas à peu près, là.
Oui, oui. Moi, j'étais plus... Ma force, c'est plus d'organiser que les contenus. Il y en a qui lisent des livres, puis qui font des contenus, puis tout ça, là.
tu t'appelles Yves Dufour, mais pourquoi on t'appelle Bob?
Parce que ma famille vient de l'Île-aux-Coudes. Puis à l'Île-aux-Coudes, ben, un enfant qui était tannant, il appelait ça un Bobby. Pas Bobby, pas Robert, pas Bobby, le Bobby, ben Bobby, comme ça. Puis c'est peut-être un dérivatif de Baby, parce qu'il y a eu une grosse influence anglophone hein, dans Baie-Saint-Paul, là, la conquête et tout ça. Peut-être que c'est un dérivatif de ça. Qu'une madame m'avait expliqué à Lille, là, il y a peut-être une quarantaine d'années.
Ah oui.
On est deux de même. Il y a mon cousin Léonard, puis moi.
Puis comme tu n'as jamais été vraiment sage, bien, tu as gardé le nom.
Ouais, maintenant, je suis tranquille, mais à l'époque, tu n'as pas du monde, là. Alors, il y a plein de petits bobis, un petit tannant.
Un jour, donc, tu es devenu organisateur politique. C'est quoi? On ne sait plus exactement ce que c'est, et surtout ce que c'était peut-être à l'époque. Un organisateur politique, ça faisait quoi au moment où tu faisais ce travail-là?
Bien, un organisateur politique, si on le prend, mettons, dans le sens large du terme, là, on appelle ça un directeur d'organisation de campagne. On appelle ça un doc. Alors, un doc, là, pour ceux qui sont habitués là, de faire de la politique, savent ce que c'est la personne qui va coordonner le travail d'une équipe qui va faire en sorte de faire élire le candidat là, de son parti là, dans un comté.
Admettons, dans un comté. Il va faire quoi pour le faire élire?
Alors là, c'est sûr que ça va prendre des gens pour faire des téléphones, ça va prendre des gens pour sortir le vote, ça va prendre un directeur de campagne, ça va prendre...
Sortir le vote, ça veut dire appeler le monde pour qu'ils viennent voter.
Hein? Oui, puis aller chercher aussi pour qu'ils viennent voter. Là. Bon, je peux pas y aller parce que moi, bébé, je vais partir, on va trouver une gardienne, on va avoir quelqu'un pour aller vous chercher pour venir voter. Alors ça, on appelle ça sortie de vote, ça c'est la fin. Mais le début, c'est de monter une équipe. Alors moi, quand je montais une équipe, admettons, le fait dans Sainte-Marie, j'ai fait à plusieurs endroits, fait au niveau national, bien là, tu choisis ton équipe. Alors, c'est qui va être le directeur de l'organisation? Ça, c'est lui qui va s'occuper de trouver les militants, bénévoles, là, pour être capable de travailler, identifier le vote. Ça va te prendre un agent officiel, ça va prendre quelqu'un en communication, ça va prendre quelqu'un en logistique, ça va prendre, parce que ça prend des salles, ça prend des téléphones, ça prend des postes d'Internet. C'est qui qui va s'occuper de la réception, c'est qui va s'occuper des bénévoles. Donc, c'est de monter toute une équipe. Puis, à l'époque, là, quand on le faisait, là, dans les années 80-90, là, dans un comté, pour une élection au provincial, là, on parlait de entre 500 et 600 personnes. Là. On parlait pas de rien, là. C'était beaucoup de monde. Et on était chanceux au PQ parce qu'on avait beaucoup de monde, on avait beaucoup de membres, on avait beaucoup de militants. Alors, le PQ, là, a déjà eu tout près de 300 000 membres. Le Parti socialiste, en France, n'avait même pas ça. Alors, les membres, c'est dans ce bassin-là qu'on va chercher les bénévoles pour nous aider pour faire la sortie de vote.
Et il peut arriver que pour un autre parti, tu fasses appel à une base comme ça qui te connaît bien, PQ, quand tu es passé au Bloc, par exemple. Tu vas chercher un peu ces gens-là aussi, les mêmes personnes.
Bien, de PQ à Bloc, oui, parce que... Oui, oui, ça, c'est sûr. Moi, je ne l'ai pas fait avec les libéraux, avec les conservateurs, tout ça, là, mais de Bloc à PQ, oui, parce que souvent, c'est le même monde.
On va arriver au Bloc, parce que je connais l'histoire, mais il faut que tu nous la racontes. Parce qu'à un moment donné, c'est pas tout d'être un très bon candidat populaire, je pense évidemment à celui dont on va parler, à Lucien Bouchard. C'est pas tout. Il faut, dans le comté, s'il veut faire élire son député... Dans ce cas-là, c'était Gilles Duceppe pour le Bloc. C'était le début du Bloc, là. C'est l'invention du Bloc, l'inauguration. Ça prenait un bon organisateur. Et c'est là qu'on t'a approché. Et ça c'est la plus belle histoire de ta vie. Raconte-moi ça encore. Moi, je pourrais raconter ça 20 fois, cette histoire-là. Parce que c'est tellement typique de ce qu'est le Québec, avec des intellectuels un peu snobinards sur un côté, bien nantis, et la classe plus ouvrière, plus prolétaire. Quand on réussit à faire le joint entre les deux, c'est assez rare. Et toi tu l'as fait, mais pas à peu près.
Oui, bien, hier, je pensais à ça. Quand Jean-Claude Malépart, il est mort, moi, je suis venu au monde. Tu sais, là, d'une certaine...
Dans Sainte-Marie.
Là. Dans Sainte-Marie. Je l'étais déjà au monde dans Sainte-Marie, mais là, ça a pris une envergure nationale parce que c'était une élection fédérale, nationale. C'est une partielle, hein? Jean-Claude était décédé, M. Malépart était décédé. Alors, comment ça s'est fait? C'est que quand est arrivé là, la date fatidique, là, bon, on fait une élection, il va-tu, il va pas. Moi, j'avais été approché par... on avait même pensé, nous autres, à à essayer de trouver un candidat libéral. On pensait pas souverainiste, pas une minute, là. Puis on voulait avoir un gars comme Serge Lajeunesse qui aurait pu devenir candidat libéral. On est allé jusque-là. Puis quand on a vu que Chrétien était pour rentrer à course à la chefferie contre Martin, on a dit, regarde, on a oublié ça, là. Nous, on ne va pas travailler avec lui. Mais les péquistes, les souverainistes, eux autres s'organisaient, puis on va présenter un candidat. Là, je pourrais t'en parler pendant une demi-heure, mais m'a essayé de te le raccourcir juste pour la campagne. M. Bouchard, lui, à un moment donné, il est devenu chef du Bloc, là. Puis là, ben, ça prenait un candidat. Puis le PQ, eux autres, ils voulaient trouver un candidat. Puis Pierre Boileau, il m'avait téléphoné, à m'a brassé à l'époque, il m'a dit, écoute, ton nom circule, si jamais il y avait une partielle dans le comté, il vient d'en avoir une, Chris, il est mort, le député, tu sais. S'il y avait une partielle, est-ce que toi, tu intéressais à l'organiser? Moi, j'ai dit, écoute, là, tu sais, là, j'ai une brasserie, une famille, puis tout ça, ça va dépendre des conditions, puis tout ça. Fait que là, ça restait là. On n'a pas entendu parler de rien. Là, Pierre-Paul, il est venu me voir. Il m'a parlé de la candidature de Ducep. Moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, parce que là, il y avait eu des problèmes avec la CSN, avec l'hôtel Richelieu, là, à Malbé, puis tout ça. Après ça, bon, après une coupe de verre de vin, là, je trouvais qu'il y avait plus d'allure comme candidat. On va sortir plus son père, moins la CSN et tout ça. Fait que là, ça a commencé à prendre forme un peu. Puis Louise Ariel, elle m'avait dit, « Monsieur Bouchard, il va t'appeler. » Fait qu'elle dit, « Ça me prendrait tes numéros de téléphone. » Parce qu'elle, Marc-André Bédard, il l'appelait, Louise, là. Parce que ici, dans le coin, là, Maisonneuve, là, Sainte-Marie, Bizarrion n'est plus là, et tout ça, il n'était pas dans le PQ. Là, la référence, c'était Louise Ariel. Puis Louise Ariel a dit, « Si vous allez dans Sainte-Marie, là, la personne à qui il faut qu'on parle, là, c'est Bob Dufour. C'est lui, il connaît ça. » Mais, puis pas les autres, là, c'est juste lui. Fait que...
Lucien. Mais Bob Dufour, c'est un tenancier de taverne. Enfin, brasserie, mais c'est un tenancier de taverne, là. C'est ça que tu fais, là.
Oui, mais j'avais été...
Avant, oui.
J'avais été oui, c'est ça. Mais avant, j'avais 8 ans dans le comté de député, de 77 à 85. Après ça, en 86, j'ai acheté des parts dans la brasserie. J'ai parti à une organisation pour des jeunes qui ont eu des problèmes de santé mentale. Mais moi, j'étais connecté dans ce comté-là, là, pas pour le fun. Moi, je connaissais tout le monde, là. Les groupes populaires, les groupes d'âge d'or, les organisations communautaires, le CLSC, whatever.
Fait que tu devenais un homme clé pour essayer d'organiser la première élection du Bloc dans la région. Là.
Oui. Puis, en même temps, j'étais un bon organisateur, là, parce que, bon, j'avais déjà fait mes preuves, là, j'avais déjà gagné. Je n'ai perdu, mais je n'avais déjà fait. Alors, là, Marc-André, lui, quand il a mis ça dans la tête à M. Bouchard, il a dit à M. Bouchard, le gars à qui il faut parler, c'est Bob Dufour. Lui, il a parlé avec Louise Ariel. Puis là, il me dit, il va t'appeler. Fait que là, bon, ben, j'ai dit, il m'appellera, mais lui, il m'appelait pas. Fait que moi, j'ai dit, ben, regarde, fuck, tu sais, là, si, à un moment donné, ça y tend, il m'appellera. Fait qu'il m'appelle un vendredi soir. Moi, j'étais à la maison, on est peut-être en juin, là, puis l'élection a lieu le 13 août. On est comme un vendredi soir, il est 6 heures, puis là, il m'appelle, puis il me dit, écoutez, mon nom, c'est Lucien Bouchard, puis mais moi, je l'avais vu à TV, puis je connaissais pas, là, j'avais à TV, puis j'avais dit à ma femme, hein, il dit, regarde ce gars-là, là, ça va devenir le prochain premier ministre du Québec. Elle dit, c'est qui t'a dit ça? Je sais-tu, moi, j'ai aucune idée, mais ce que je vois là, là, mon feeling, ça devrait être ça. Fait que là, il m'appelle, puis il me dit, écoutez, là, il y a des élections qui vont avoir lieu dans Sainte-Marie, puis on m'a dit qu'il fallait que ça... On m'a dit qu'il fallait que ce soit à vous que je parle. J'ai savais, M. Bouchard, il y a bien du monde qui dit bien des affaires, ça veut pas tout le temps dire que c'est vrai. Il dit, regarde, on ne perdra pas de temps. Là. Moi, je le sais que t'es le keyman, moi, je le sais que t'es le gars là, à qui il faut qu'on parle, là. Puis j'aimerais ça vous rencontrer. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Avez-vous un agenda? J'ai dit, oui, j'ai un agenda, là. On va faire ça tout de suite. Il dit tout de suite, là. Il dit, là, en plein ça. Fait que lui, il est au Reine-Élisabeth avec Benoît Tremblay. Il est vendredi 6 h. Moi, j'étais bien waiter chez nous, là, m'en va travailler parce que je commence à 8 h sur le plancher. Puis là, j'ai dit, si vous voulez me parler, là, à 9 h, moi, je commence, ben, j'ai dit, si vous voulez me parler, là, c'est là, à 8 h, à ma brasserie. Ben, il dit, quelle place que c'est? Prenez un taxi, on vous emmener, qu'elle donne l'adresse, puis tout. Et qu'il prend un taxi, la reine Élisabeth, il arrive au 23-28 Ontario, entre Folham puis Dufresne. Les gars donnent dans la rue, il fait noir comme si diable, écoute, là, il était pas dans un grand salon, là, tu sais. Il rentre là-dedans, il fait noir, parce que c'est sombre un peu, là. Puis moi, j'étais assis en arrière, puis comme on n'a pas de temps à perdre, moi, j'ai fait mettre à peu près 8 du verre de bière sur la table, là, puis tout ça, là. Il rentre, il s'assit, puis là, j'ai écouté, là... On m'a parlé de vous. On m'a dit que si je voulais faire des élections ici, il fallait que je parle avec vous. J'ai dit, ouais, bien, entre autres, moi, ouais, je connais du monde. Je pourrais donner un coup de main. Puis là, moi, je le connais pas. Je n'ai entendu parler, mais si tu es un vrai, il veut-tu? Y a-tu du gars? Tu sais, ben là, il va me faire des mains. Moi, il va me faire travailler. Puis Chris, il n'arrivera rien. Non, il dit, on va aller aux courses. Fait que là, j'ai commencé à lui poser des questions qui ça demande pas. Tu ne demandes pas des questions de même. Fait que j'ai demandé à vous des sondages. Il dit oui. Fait qu'il me dit à moi, c'est qui d'après vous qui va gagner ici? D'après moi, c'est les libéraux. Il dit, moi, j'ai des sondages qui disent que c'est les souverainistes. Ah ouais, dit, lesquels vous avez? Il dit Michel Lepage. Ah, ça, c'est déjà bon. Fait que ça on partait bien. Il dit, avez-vous de l'argent? De l'argent? Vous connaissez ça, de l'argent? Il dit, oui, non. En avez-vous? Tu demandes pas ça à un gars qui était ambassadeur du Canada, puis ministre, ça se fait pas, là. T'sais, je le sais, là. Mais moi, je veux savoir où je m'en vais. Puis je n'ai rencontré plein, ils m'ont fait des mains. Pas lui. Lui, il livrait, là, tu sais. Fait que. Il me dit, bien, j'ai tant d'argent. Ah, bien, j'ai dit, parfait, on va parler avec ça. T'sais. Il dit, comment ça, on va parler avec ça? Bien, il dit, on ne gagnera pas avec ça, ça va coûter tant d'argent pour gagner. Il dit, qui c'est que vous avez dit ça, vous? Ben, j'ai dit, c'est qui connaît ça, les élections? C'est moi, vous venez voir, là. Moi, j'ai déjà fait, tu sais, des élections. Je sais comment ça coûte, une élection, ici, là, pour gagner. Si vous voulez perdre, là, vous qu'à me parler d'autres montants, là, on ferme les livres, on n'y aura pas. Puis là, on parle des candidats. Fait que là, je dis, vous des candidats. Là, il me sort une liste de noms. Ça, c'était toute la slate de Bernard Landry. Puis Landry, il a fait un gros job. C'est lui qui avait fait, qui avait été chercher tous les candidats conservateurs qui étaient devenus des bloquistes par la suite. Puis évidemment, lui, il y avait, bon, Denise Leblanc-Banté, Mathias Rioux, puis d'autres, là, que lui, il voulait... Non, je regarde, là, ça, là, ces noms-là, ici, ou ça, là, tu sais... Ils sont même pas capables de faire la différence entre le pont Jean-Cartier puis le pont Victoria. Il dit, Chris, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent faire ici? Ils connaissent pas ça, tu sais. Fait qu'il me dit, toi, t'en as-tu un candidat? Je dis, oui. Il me dit, c'est qui? Ben, j'ai dit, Gilles Duceppe. Ton chum, ça, hein? J'ai dit, oui, c'est mon chum. Puis il me dit, toi, tu penses que... Non, je dis, je pense pas, là, lui, il va gagner. Alors, tu t'es sûr de ça? Je dis, connaissez-vous ça, Montréal? Il me dit, non. Il dit, Lac Saint-Laurent, ça vous dit quoi? Il dit, oui. De Saint-Laurent, jusqu'au bout de l'île, là, dans l'Est, là, moi, je connais tous les organisateurs politiques, là, des souverainistes, là, je connais tous, parce qu'on travaille ensemble. Ça fait 10 ans puis 15 ans. Mais tout le monde qui est parent avec Maurice Richard puis Jean Duceppe, là, qui se présente là, dans une élection fédérale, provinciale, paroissiale, municipale, scolaire, Marc Guillé va rentrer. Puis l'autre côté, là, s'il est dans la famille de Molson puis Brunchman, là, ça va être la même affaire. Puis j'ai dit, lui, en plus, il est travaillant, il reste dans le coin, il connaît le monde, puis il va aller aux courses, puis lui, il va gagner. Fait que si un candidat pour gagner, là, c'est lui.
Il a été élevé dans le quartier, en plus, puis son père est connu.
Son père est connu, il est élevé dans le quartier, c'est un gars d'Hochelaga Maisonneuve, puis lui, il n'est pas parti rester ailleurs, puis il est allé travailler à CSN, puis il est infirmier dans les hôpitaux, je comprends qu'il était ML, puis whatever, là, mais tu sais, là, il n'a pas la grosse tête. Puis c'est un travaillant, puis il va être appuyé par le mouvement syndical, alors moi, je trouve que ça serait votre candidat. Puis là, j'ai essayé Bizarion, ça, il ne voulait pas en entendre parler pantoute, parce qu'il avait déjà eu de quoi avec lui avant, mais pour Duceppe, là, ça allait. Fait que... J'ai dit, ça sera à peu près comme ça. Ah oui, puis l'autre affaire, là, c'est vous passez toute la campagne ici. Hein? Mais oui, j'ai dit, partez pas en vacances, Chris, vous êtes notre meilleur vendeur. Faut que vous soyez là, vous, faut que vous soyez là. Fait qu'il dit, OK. Fait que là, ben, il dit, Duceppe, il veut-tu y aller? Mais là, c'est pas moi le convaincre, là, c'est vous. Là. Puis là, Duceppe, il négociait, lui, avec les hôpitaux, avec la CSN. Ça fait deux, trois jours qu'il ne dormait pas. Là, il faut parler à la Rose, puis demander au président de la CSN qu'il débogue, puis Chris qui embarque, tu sais, qu'il vienne. Si lui, il vient, que moi, je ne fais pas de campagne de financement, on ne fait pas d'assemblée d'investiture, on n'a pas le temps. L'énumération finit jeudi de la semaine prochaine. Là. Il n'est pas moins 5, là, M. Bouchard, là. Il est moins 1, puis moins 30 secondes. Là. On est serré en crime. Là. Puis que c'est lui qui est le candidat, là. Moi, je pense que je pourrais le faire, mais je ne garantis pas qu'on va gagner. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de garantir dans une élection qu'est-ce qui va arriver. Là, aujourd'hui, là, on ne le sait pas. Mais si on fait ça, d'après moi, on devrait être en business. Fait que lui, il a reparlé avec Duceppe. Duceppe, il m'a appelé. On s'est parlé. J'ai parlé à la Rose. Même un bout de temps, Gilles, il ne voulait plus parce qu'il voulait finir ses négos. Puis là, la Rose dit, on va demander à Bob de se présenter. Il dit, come on, Gérald, là, c'est pas moi le candidat, c'est lui. Là, c'est pas moi qui ai connu, c'est lui. Moi, je ne suis pas connu. Je suis connu ici avec mes amis et ma famille, mais...
La CSN a aidé, j'accélère un peu, la CSN a aidé Gilles pour qu'il puisse se présenter.
Exact.
Bon, c'est ça.
Puis après ça, on est parti. On a fait 67 % du vote. Coderre a fait 19,5. Il a perdu son dépôt. Puis dans son livre, M. Bouchard, il avait écrit qu'après cette victoire-là, il n'y a plus personne qui a jamais remis en doute le Bloc québécois.
Alors, ce personne que vous écoutez actuellement, qui s'appelle Bob Dufour, pour les intimes, qui a fait tout ça, a été à Ottawa. Il a été, t'as été chef de cabinet...
De Gilles Duceppe à Ottawa.
De Gilles Duceppe, t'as dirigé le Bloc. T'es même venu diriger le Parti québécois après ça, oui. Plus tard. Et on ne t'embarquera pas là-dedans, parce que cette histoire-là en dit tellement long. Et t'es devenu un ami sincère et profond et durable, avec Lucien Bouchard.
Ah oui, absolument. Puis quand j'ai pris ma retraite là, de la politique, M. Bouchard il a fait un discours au Conseil national, puis il avait annoncé deux départs. Il y avait un des premiers vice-présidents, j'oublie son nom, là, mais qui restait dans le but de toi, puis moi. Puis quand ça arrivait à moi, il m'a dit souvent en politique, là, on se fait des ennemis, hein, puis c'est pas dur, là, c'est pas long, là, tu sais. Mais dis-moi, là, la personne dont je veux vous parler, là, dis-moi, m'en suis fait un ami, puis c'est pour la vie, là, tu sais. Ce gars-là, là, je peux compter sur lui, là, 300 000
Et vous voyez régulièrement.
On se parle au téléphone, on va dîner ensemble une couple de fois par année, puis on échange.
As-tu, Bob, la nostalgie de ces périodes-là où tu étais au Bloc directeur du PQ, etc.? T'ennuies-tu?
Je m'ennuie du débat, je m'ennuie des enjeux, je m'ennuie de ce pourquoi on faisait de la politique dans ce temps-là. Puis des fois, on en parle au téléphone avec Lucien, des fois, il se lâche lousse, là, tu sais. Puis il dit, nous autres, on faisait de la politique, on disait qu'on faisait de la politique pour le vrai. Nous autres, on voulait faire un pays, c'était pas rien, là. Tu sais, nous autres, on voulait pas gérer les finances de l'État, puis on voulait pas le bonheur de tout le monde. Nous autres, on voulait avoir un pays, on voulait être à l'ONU, puis on avait du monde, puis on avait du monde compétent qui était là-dedans, là, des gars comme Parizeau, Landry, René Lévesque. Quand nous autres, on était dans cette mouture-là. Alors, nous autres, on allait aux courses pour le vrai. Nous autres, on voulait être un peuple reconnu. Ça, là, tu retrouves plus ça après, là.
Y crois-tu encore?
Oui, puis non. Parce que je pourrais jamais dire non à ça, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. De quelle manière, de quelle façon, de quelle mouture ça va être, je sais pas. Parce que là, jouer la carte, qui font des affaires beaucoup à tendance nationaliste, en tout cas pour moi, ça me satisfait. Mais comme ça pouvait l'être, comme on pouvait le souhaiter, comme on pouvait l'imaginer à l'époque, quand t'avais une machine, écoute, là, on a fait... les libéraux, au référendum de 95, ils n'ont jamais voulu gager une scène. On leur a fait 50 000. Ils n'ont jamais voulu accoter ça. Ils n'ont jamais voulu... ils étaient sûrs qu'ils se faisaient abattre.
Chose certaine, tu as fait ta marque en politique, mais pas à peu près. Et c'était pas évident pour tout le monde. Puis j'ai l'impression qu'un jour ou l'autre, on va savoir plus long parce que je sais que tu prépares un livre.
Oui. Oui. Pour mettre plus de détails, mais en même temps aussi, on peut pas, là, dans une entrevue comme ça, là, commencer à expliquer nos feelings puis tout ça, là. Mais c'était vraiment quelque chose, là, de... comment je te dirais, de engageant. On était engagés, là, tu sais, là. Fait que pour moi, c'était pas juste une job, c'était pas juste... Moi, là, je m'en allais pour travailler, pas tout seul, là. On était en armée, il y a plein de monde. Moi, je dirigeais la gang, là, tu sais. Mais on faisait tout, là, tu sais, pour pas faire de gaffe, puis être capable d'avancer, monter au référendum. On a fait 90, l'élection à Gilles. À 92, Charlottetown. 93, le Bloc. 94, l'élection du PQ. 95, le référendum. Écoute, là, c'était des années, là...
Si jamais on l'a, ça va être un moyen party.
Hé, Chris, moi, je me dis... Tu sais, des fois, on demande au monde, c'est quoi la plus belle journée dans ta vie? Moi, c'est sûr que la plus belle journée dans ma vie, là, c'est la naissance de Nicolas.
Ton fils.
Mais la deuxième, là, c'est le 15 novembre.
À la semaine prochaine, pour une autre aventure. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.